Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Fabienne Alouis, militante communiste du Vaucluse sur Orange. Je suis également animatrice de la commission lutte contre le racisme et les discriminations au sein du parti. Est à mes côtés Maryse Tripier, qui est également aussi une militante communiste, avec laquelle nous militons ensemble au sein de la commission lutte contre le racisme et les discriminations. Maryse est sociologue, professeure émérite qui a exercé à Paris 7. Elle a une grosse expérience en matière de migrants. Certains camarades, je le dis quand même avec le sourire, mais quand je cite le nom de Maryse Tripier, il y a une camarade qui m'a dit « Ouh, Maryse Tripier, mais elle a une reconnaissance internationale. » Je ne savais pas que... et donc, ça me fait plaisir d'être à ses côtés. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Continuité et changement dans l'immigration ». Vous avez vu cet été... que la question des migrants est au centre de l'actualité, une actualité dramatique. Depuis le début de l'année, c'est plus de 2000 morts en Méditerranée, c'est 3000 réfugiés dans la nouvelle jungle de Calais. Ces jours-ci, le Croissant Rouge en Libye annonçait 76 cadavres repêchés, 198 personnes sauvés après le naufrage d'un bateau qui transportait 300 migrants, ce qui veut dire qu'il y a encore des disparus. Un jour avant, c'était en Autriche, 71 migrants découverts, c'est l'horreur, dans un camion abandonné. Mercredi, c'est 3000 migrants qui étaient secourus entre la Libye et l'Italie. C'est une véritable tragédie humanitaire que nous vivons. Et en même temps, il y a de quoi s'inquiéter dans la façon dont est traitée l'information, parce qu'il y a peut-être un petit peu plus d'émotion, parce qu'aujourd'hui, on nous parle plus facilement de réfugiés que de migrants économiques. Et donc, je pense qu'il y a des questions qu'il est intéressant d'approfondir. Mais en même temps, tous ces hommes, toutes ces femmes, ces enfants qui fuient leur pays, viennent d'Érythrée, viennent de Syrie, du Soudan, du Ghana, de Sierra Leone, mais aussi d'autres pays. Mais c'est en particulier ceux aujourd'hui qui font l'actualité. Ils viennent de pays où souvent il y a la guerre civile, où il y a des désordres incroyables. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il est important de l'aborder dans le sens de cette Europe qu'on a appelée cette Europe forteresse, qui veut se défendre de l'assaut de migrants qui viendraient prendre les richesses européennes. Et je cite Fatou Diome, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la lire ou de l'écouter, c'est une écrivaine franco-sénégalaise à qui je tiens mon chapeau, qui déclarait en 2003 qu'aujourd'hui il y avait quelques dizaines de morts et que si rien n'était fait, il y en aurait plusieurs centaines. En fait, rien n'a été fait. Nous ne sommes plus à plusieurs centaines, nous sommes à plusieurs milliers. Cette franco-sénégalaise, cette écrivaine, aborde plein de sujets qui, à mon sens, devraient être abordés dans la discussion. Elle parle de complexe colonial, de complexe de domination, de complexe d'infériorité. Elle parle de toute une série de choses où on voit bien qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un vrai débat sur la politique d'accueil que l'on devrait avoir dans ce pays, mais également au sein de l'Europe. Et je pense que Maryse va nous faire une introduction qui permettra d'aborder tous ces sujets avec notre analyse communiste.
Merci. Donc, je vais vous dire qu'il y a quelques mois, on avait décidé de faire ce débat, continuité et changement dans l'immigration. Donc moi, je me suis dit, bon, on commence par le commencement. Commence les années 50, 70, on arrive à maintenant. Puis après, je me suis dit non, vu ce qui se passe, on ne va pas faire classique, chronologique. Je pars d'aujourd'hui et j'essaierai, si vous m'en posez des questions, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant. Parce que justement, il y a de l'aggravation des circonstances antérieures, mais il y a quand même une nouvelle donne qu'il faut prendre en considération. Donc, je ne reprends pas ce que vient de dire Fabienne, c'est que on fait cet exposé aujourd'hui dans une situation d'émotion très très forte. Il y a énormément de morts, etc. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allée à Sainte-Foy-la-Grande, il y avait un festival sur les migrations en juin, et moi j'étais là pour parler de la mémoire d'une amie à moi, Véronique de Rider, et puis il y a une anthropologue qui est venue nous raconter ce qui s'est passé quand on a trouvé un cadavre mort dans un Zodiac où il y avait d'autres migrants sur un petit village de la côte espagnole. Donc le truc arrive et on trouve au fond un cadavre. Qu'est-ce qui se passe après ? Personne ne s'était jamais posé la question. Donc elle nous a raconté comment ça s'est passé, l'identification, les obsèques improvisées, qui c'est, comment on sait qui c'est. Bon, voilà. Alors je peux vous raconter un peu plus longuement, mais ce qui nous a tous glacés, c'est que le médecin légiste a écrit cause officielle du décès, enfin cause du décès, deux points, migration. C'est la première fois qu'on entend que la migration est une cause de décès pour un médecin légiste. C'est-à-dire ici, voilà. Et donc c'est un événement qui, moi, à mon avis, doit nous faire réfléchir. Nous, on était sidérés. Alors, je vous dis pas après le problème de qui c'est, d'où il vient. Et ce sont des gens locaux. Je reparlerai après du poids des citoyens qui sont allés essayer de savoir qui il était en demandant la photo à l'institut médico-légal du petit coin. Ils sont allés voir les migrants du même bateau pour savoir si c'est vrai. On savait seulement qu'il était de Guinée. Puis après, est-ce qu'on va trouver sa famille, pas sa famille? On va l'enterrer où, etc. Résultat, il a eu des obsèques improvisées dans ce petit village avec un des migrants qui s'est improvisé imam, et le vicaire espagnol qui est venu faire l'enterrement catholique, puisque personne, et il est enterré quelque part dans ce petit village où il y a marqué X, voilà, mort de migration guinéen, c'est tout. Donc c'est personne ne se Enfin, je trouve que partir de là pour se poser cette question était très important. Alors, ce que je voulais dire, et que je pense qu'on va rediscuter peut-être au long de cet exposé, c'est qu'il faut partir d'un truc dans notre tête, c'est qu'il y a toujours eu des migrations et qu'il y en aura toujours. C'est-à-dire l'idée qu'on essaie de nous bassiner, qu'on est capable ou qu'il est même souhaitable de faire en sorte que tous les gens restent « chez eux », entre guillemets, est une idée que nous, en tant que communistes, on doit arriver à repenser. Et par rapport, par exemple, à l'expression française de souche, hein. Les humains n'ont pas de souche. Les humains ont des pieds, ils bougent. Donc c'est pour ça que non seulement cette expression est détestable, mais elle n'a aucun sens. Donc il faut... Donc. Alors par contre, bon, la nature, les parcours, les destins, les contextes des migrations varient et sont le symptôme de l'état du monde, hein. Donc en principe, si vous voulez, on devrait ne pas traiter l'immigration seule, quoi. Et d'ailleurs, j'essaierai de montrer qu'on ne peut pas. Mais enfin, il faut quand même partir de là. Je vais faire un peu au mieux, quoi. Donc, d'abord, je voudrais faire quelques éclaircissements sur l'usage des mots. Parce que les mots sont très embrouillés. Immigrés, migrants, déplacés, réfugiés, demandeurs d'asile. Il y a une espèce d'avalanche de mots dont il faut qu'on arrive, nous, en tant que militant, au moins savoir ce qu'on dit. Voilà. Donc il y a d'abord des catégories statistiques qui sont officielles. Et là, il y a eu un changement dans les années 90. Pendant que j'ai commencé à bosser, moi, dans les années 70, on avait l'INSEE. L'INSEE nous donnait les étrangers, les Français par acquisition, naturalisés ou réintégrés, et les Français. Et c'était le critère de la nationalité. Et puis dans les années 90, sous l'influence du Haut Conseil à l'intégration, et en particulier de Madame Tribala, dont on a vu après qu'elle est devenue qu'elle se rapproche de l'extrême droite, mais l'argument n'était pas complètement faux, on a dit le critère de nationalité ne rend pas compte de la réalité de l'apport démographique de l'immigration. Donc on a introduit dans la statistique publique au recensement la notion d'immigré. Alors un immigré, c'est une personne née étrangère à l'étranger, quelle que soit sa nationalité ultérieure. Donc ça, on est immigré une fois, c'est toujours, quoi. Moi, par exemple, je suis une immigrée. Je suis venue en France, j'avais 5 ans et demi. J'ai eu un statut d'apatride, ce qui est dans mon livre, d'origine indéterminée pendant 20 ans. Je me suis devenue française par mariage et par naturalisation. Mais je suis statistiquement une immigrée. Mais personne ne me regarde comme ça. Donc on voit bien qu'entre la... Je me demande ce qu'a apporté cette volonté statistique d'avoir à côté ou à la place d'étrangers cette nouvelle catégorie officielle du recensement qui s'appelle immigrés. Ça va avoir un poids parce que ça va entériner cette catégorie, va lui donner un poids, je dirais, d'une catégorie d'État, quoi. Alors, à côté des catégories statistiques, il y a ce qu'on appelle les catégories administratives. C'est là que voilà, vous avez... pourquoi je parle des catégories administratives ? C'est parce que ce sont elles qui fondent les politiques publiques. Donc, on a la police, la justice, l'OFPRA, les ministères, etc. Et donc, dans les catégories administratives, il y en a pas mal. Il y a demandeurs d'asile, si vous voulez, on reviendra dessus. Réfugiés, ce qui est la fin du processus de la demande d'asile quand elle aboutit. Il y a les étudiants, il y a les rejoignants du regroupement familial, il y a les étrangers en situation régulière, il y a les étrangers en situation irrégulière, dits sans papier, et donc les mineurs isolés, etc. Donc là, on a des catégories administratives qui sont là pour fonder des actions de l'administration, des politiques publiques et aussi celles des associations. Par exemple, beaucoup d'associations comme la CIMAD aident les gens à savoir dans quelle catégorie ils peuvent rentrer, prétendre, etc. Bon. Donc, ces classements sont très importants. Ils sont très importants pour les gens et ils sont très importants pour la perception. Aujourd'hui, on va mettre sur le mot migrant tout ça. Et c'est pas pour rien que ce mot est apparu tout d'un coup dans les médias et a tendance à tout effacer, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple du communiqué du parti sur l'attitude d'Angela Merkel. Angela Merkel a fait des propositions, là, récemment, en disant « Moi, je ne renvoie plus les Syriens sur la zone d'entrée. » Bien. Mais seulement les Syriens. Voilà. Elle ne dit pas ce qu'elle fera par rapport à l'asile, elle ne dit pas ce qu'elle fera par rapport à l'économie, elle parle des Syriens. Pour dire, eux, les Syriens, c'est un cas à part, et je ne vais pas les... Je ne dis pas que je vais leur donner l'asile, mais je ne vais au moins pas les renvoyer en Italie ou en Grèce. Mais les Albanais, on touche pas. Donc, si vous voulez, elle confond des catégories d'action publique qui ne sont pas les mêmes pour après. Et elle a dit, je vais chercher pour l'asile, je vais faire attention à ce qu'il y ait des zones sûres où on peut renvoyer les gens. Et comme on l'a vu dans notre communiqué, c'est parce qu'en Allemagne, ils ont peur de voir arriver les Albanais, les gens des Balkans, qui sont beaucoup à demander l'asile en Allemagne. Et pour pouvoir retirer cela, il faut dire qu'ils viennent de zones sûres. Donc, si vous voulez, ces catégories administratives qui fondent des politiques ne sont pas sans intérêt et il faut les connaître. Et puis, il y a ce que les sociologues appellent les catégories du sens commun, c'est-à-dire vous et moi quand on parle. Et là, pendant très très longtemps, et peut-être encore maintenant, les gens ne font pas la distinction entre immigrés et étrangers. C'est employé indifféremment dans le langage courant. Mais le poids croissant de immigrés est quand même intéressant parce que ça montre que, même si comme moi vous êtes là depuis 65 ans, c'est un effet pérenne. Et on insiste plus sur votre origine que sur le présent ou l'avenir ou ce qui vous est arrivé. Vous êtes né étranger à l'étranger, vous êtes un immigré, vous le restez et vous le resterez. Donc c'est une... aux États-Unis, par exemple, on parle d'immigrants. Alors vous allez me dire quelle est la différence. Eh bien, le ANTS fait que dans la conception américaine, comme ils ont, c'est l'inclusion à venir. Immigrants, ils savent qu'ils sont une nation qui s'est construite sur les immigrants. Tandis que nous, comme disait Sayad, les immigrés sont toujours extérieurs. C'est une extériorité. Toujours dans le langage courant, on va parler des jeunes immigrés. Ou alors des jeunes issus de l'immigration sans arrêt, quoi. C'est-à-dire, au lieu de parler de nouveaux Français, on va parler d'issus de l'immigration. Et comme disait Hervé Lebras, combien de temps ? Première, deuxième, troisième génération ? Donc on a ce problème d'insister sur l'origine par rapport au fait d'insister sur le présent. Alors déjà, les enfants d'immigrés, la plupart du temps, sont Français. Mais voilà. Et puis, donc le terme de migrant, aujourd'hui, il tend à désigner des choses très différentes, mais quand même, aujourd'hui, il tend à désigner ceux qui fuient parmi les moyens les plus dangereux, hein, ceux qui meurent en mer, etc. Et moi, je dis qu'il est utilisé pour faire peur. C'est-à-dire, c'est exprès qu'il n'y a rien en dessous. C'est-à-dire, on dit migrant pour pas décliner, pour pas rentrer dans le détail et pour pas montrer de quoi il est question. C'est un machin qui sert à tout, quoi. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, je vais rapporter une discussion que j'ai eue avec Alain Ayot il n'y a pas longtemps, quand je préparais cet exposé. Je lui disais, quand les Français émigrent, on les appelle les expatriés. Hein, oui. Voilà. Et alors, il me disait, quelle est la différence entre un médecin sri-lankais immigré en Europe et un ingénieur français qui travaille au Gabon? Voilà. Et ben, le premier, le Sri Lankais, c'est un immigré qui va vivre sous l'ère de la discrimination et de la précarité, confirme le film Hippocrate, hein, pour ceux qui l'ont vu. Et le second, un expatrié, avec tous les droits attachés à sa nationalité. Donc, néocolonialisme pas mort. C'est-à-dire que la notion de migrant ne touche pas nos Erasmus. Bon, c'est vrai que les Erasmus ne restent pas longtemps, mais enfin, tous ceux dont on parle, les jeunes qui vont faire fortune à Londres, etc. Enfin bon, ça, c'est les expatriés. Migration intérieure, migration extérieure. Regardez le cas chinois. Au chinois, il y a les Mingong, hein, c'est un mot pour désigner les migrants intérieurs. Quand vous regardez ce qui arrive aux Mingong, qui doivent avoir un passeport Hukou, ils sont traités exactement comme des étrangers. Ils doivent montrer des passeports, des trucs. C'est-à-dire, c'était pareil sous l'apartheid, où on a essayé de faire croire que tous ces travailleurs noirs qui travaillaient dans les mines d'or, etc., n'étaient pas des Africains du Sud, mais il fallait les renvoyer à leur pays d'origine, les fameux bantoustans, pour ne pas leur payer tous les trucs qui étaient hors travail, la maladie, la retraite, etc. C'est Meyassou, l'anthropologue, qui a montré comment c'était une astuce pour rendre étrangers des gens qui sont sur place. Donc il faut être extrêmement attentif et savoir que donc, sous ce mot migrant, hein, on a des tas de processus qui sont cumulatifs et qui donc la misère, la guerre, la dictature, l'insécurité sociale et climatique, l'espoir de meilleure vie, etc. Je vous cite un petit extrait du rapport d'Amnesty International qui était en 2013. Le terme générique de migrant est trompeur, comme celui de réfugié. On peut décliner à l'envi la typologie d'une réalité d'abord complexe. Mmh. Il y a les déplacements internes, les déportés internes, les exodes, les réfugiés de la mer, les expulsions, les rapatriements forcés, les exils, l'asile, qui est toujours politique et répond à des principes juridiques. Toujours sur l'usage des mots, donc vous voyez qu'il faut se défier et en tout cas, il faut être très attentif à ne pas rentrer, nous, dans ces catégories simplistes. Pareil, je prends un autre, tout à fait dans un autre domaine, le mot rhum. Le mot rhum est devenu un mot fourre-tout, etc., qui recouvre et des gens du voyage qui peuvent être là depuis 500 ans et des migrants roumains ou de Bulgarie qui viennent de l'Union européenne. Donc nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Comment on parle? Alors, des fois, on se dit, bon, je ne vais pas passer mon temps, si quelqu'un pose une question sur les Roms, à lui dire, chut, parle bien, dis-moi, fais attention, etc. Mais par contre, dans l'action de nos élus, de nos militants, etc., il faut au moins qu'ils connaissent la situation réelle et pas qu'ils soient dans des catégories dont on a parlé tout à l'heure avec Jérôme, qui sont des catégories stéréotypées et sur lesquelles on fantasme. Donc, je pense que c'est un peu notre job de ne pas reprendre ces catégories spontanées à notre compte, mais de nous interroger sur leur usage. C'est-à-dire, ces mots ont une fonction, il faut se dire, et ils sont instrumentalisés ou instrumentalisables. Donc, sur la crise actuelle, donc Fabienne en a parlé un peu, c'est quand même une nouvelle donne que je date de, je ne sais pas moi, peut-être une dizaine d'années. C'est-à-dire, c'est l'importance de la globalisation économique, capitaliste et financière, les débuts réels de la crise écologique, puisque par exemple, les Australiens refusent l'asile à tout le monde, sauf aux gens qui viennent des îles qui sont sous les eaux, déjà. Donc, eux, ils veulent un statut de réfugié climatique pour les Iliens. Donc, si vous voulez, c'est la multiplication des guerres, hein, les guerres civiles, les conflits régionaux, etc. Alors, le processus s'est accéléré, s'est amplifié. Et comme dirait un grand philosophe, il y a un moment où un quantitatif amène à un bon qualitatif. C'est-à-dire, moi, je dis qu'aujourd'hui, on est arrivé face à une crise humanitaire. c'est aussi, c'est-à-dire qu'il y a une crise de l'asile, on va en parler, et il y a une crise humanitaire. Il n'y a pas seulement... parce que des gens qui meurent avant la Lampedusa et tout ça, même le pape y est allé, etc. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Et puis avant, on a eu Ceuta et Melilla. Enfin, on a vu les gens essayer d'entrer dans l'Europe depuis une dizaine d'années. Mais le processus auquel on assiste aujourd'hui, c'est une accélération très importante. Donc c'est une et l'absence de solution en amont, moi me laisse à penser que la pression à l'émigration ne va que se renforcer. C'est-à-dire non seulement c'est une crise humanitaire aujourd'hui, mais que si se passe rien sur les terrains de conflit, sur les réponses, etc., ça va s'amplifier, auxquels s'ajouteront les réfugiés climatiques et économiques aussi. C'est-à-dire qu'il faut partir de l'idée que la question des migrations, elle n'est pas derrière nous, mais elle n'est pas seulement que maintenant. Elle est pour de longtemps. Je vous prends un exemple. Il y a beaucoup d'immigrés, de réfugiés syriens au Liban. Si ça va plus au Liban, mais les Libanais aussi vont partir. C'est-à-dire que c'est en chaîne. C'est-à-dire si vous, il paraît que, enfin, je sais pas, on m'a dit la proportion, c'est il y a un Syrien pour 6 Libanais. Bon. C'est comme si ici on avait 25 millions de Syriens en Europe. Bon. Donc, y a un moment où ça enclenche d'autres migrations. Hein. Bon. Donc vous avez un processus, une spirale, et dans la situation actuelle, moi je me permets de le dire, puisque j'ai travaillé là-dessus depuis très longtemps, la migration de travail liée à la pauvreté n'est pas dans cette période la composante principale, alors qu'elle a été pendant longtemps, le marché du travail, etc., j'y reviendrai si vous voulez, mais pour l'instant, dans cette crise d'aujourd'hui, c'est pas ça qui domine. Ce qui domine, c'est un exode. C'est une fuite, c'est un exode massif. Et c'est le plus... Patrick Veil, qui est un de nos collègues, a écrit dans La Croix que c'est la plus grande crise de l'asile depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale, elle, a fait des mouvements de population extrêmes, énormes. Mais même avant, il y avait eu les Arméniens, les Républicains espagnols, etc. Je vais revenir là-dessus parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des situations de crise à gérer. La venue des républicains espagnols, la retirada, c'est des chiffres très importants. Les Arméniens, après le génocide des Arméniens. Bon, je reviens à l'après-guerre. On a eu le sauvetage des boat people, 150 000 personnes. On a eu en un temps record le retour des harkis et des pieds noirs. Ça a atteint plus d'un million de personnes qui sont arrivées dans des temps records. On a accueilli des personnes qui venaient de l'ex-Yougoslavie pendant la guerre de Yougoslavie, du Liban en guerre. Il y a eu plus de 150 000 Chiliens, Argentins, Brésiliens sous la dictature. Je discutais hier avec, j'ai oublié son prénom, Cohen, qui est à France, Amérique latine. Fabien. Bon, France, Amérique latine, et qui montre combien on a reçu de gens d'Amérique latine pendant les dictatures. Donc, ce que je veux dire, c'est que le traitement de l'asile est directement politique. Quand on est sur les questions d'asile, on est sur des questions de choix politique d'État. Voilà. Quand on a décidé de ramener boat people, c'est un choix politique. Hein, après la guerre du Vietnam, etc. Bon. Ceci dit, je le rappellerai, mais on en reviendra, le rôle de l'armée dans ces rapatriements a été très important, que ce soit pour les harkis ou pour les boat people, ça a été organisé par l'armée. Pour l'essentiel, il y avait des camps qui avaient servi avant, hein, les camps de Rivesaltes. Les gens étaient mis dans des camps qui avaient servi, notamment pour les Espagnols. Donc, la question des chiffres, je vais revenir là-dessus, ne doit pas nous brouiller la vue. Et en plus, c'est peut-être pas très gentil pour la France, j'en sais rien, mais je crois que la France est avant tout un pays de transit. Les gens ne veulent pas forcément rester en France. Ils veulent aller ailleurs. Donc, la question se pose. D'abord, il faut faire un plan... Enfin, on en reparlera. Mais nous, on appelle à un plan exceptionnel d'accueil. Parce qu'il y a une crise humanitaire. Donc, il faut quelque chose à la hauteur de cette crise sur le plan exceptionnel d'accueil. Et par contre, il faut que tout le monde s'y mette. Mais maintenant, la question de... Bon, on pourra revenir sur Calais. Hein. Moi, j'avais entendu l'ancien maire... communiste de Calais, là, un jour, et qu'on les laisse passer en Angleterre. C'est là qu'ils veulent aller, de toute façon. Mais bon, j'ai eu la réponse de Cazeneuve. Enfin, on pourra en parler sur Calais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a un plan d'urgence sur le plan humanitaire et d'accueil à faire. Donc, la première décision là, de l'Allemagne de recréer des hotspots, c'est vital pour que des gens puissent enregistrer et rentrer. Mais ça suffit pas. C'est vraiment le minimum vital. Par contre, il faut foutre en l'air du blindé. Parce que cette histoire où un demandeur d'asile qui veut aller en Angleterre, en France, en Allemagne, il doit faire tout ça à Lampedusa, en Sicile ou sur l'île de Kos, etc., c'est laisser les gens aux frontières de Schengen faire le boulot sans aucune solidarité, comme on l'a déjà vu. D'autant que, déjà, l'Europe a fait en sorte d'externaliser ses frontières. Non seulement c'est les gens qui sont à l'arrivée qui ont le plus de... Mais on fait en sorte, par exemple avec le Maroc, de leur dire on vous lie l'aide au développement à la rétention des migrants. Berlusconi avait fait ça avec la Libye. Hein, il avait obtenu de Kadhafi qu'il ait de l'aide de l'Italie à condition qu'il retienne ses migrants. Et lui, il a été direct, il les a mis dans des prisons et dans des camps de rétention. Donc si vous voulez, Et finalement, les Anglais font la même chose avec nous. Ils nous payent pour qu'on ne laisse pas passer les gens et qu'on fasse leurs frontières. Donc nous, on fait ça avec des pays de la Méditerranée et d'Afrique. On fait marchandage, aide au développement contre rétention des migrants. Mais au fond, l'Angleterre fait la même chose avec nous. Donc la question de l'externalisation des frontières se pose. Alors ce que je veux dire, c'est que les images sont choquantes. Et elle montre une crise terrible, mais il faut faire attention aux chiffres, parce que l'essentiel des migrations et des réfugiés même ne se passe pas vers l'Europe. C'est infime comparé au nombre de réfugiés qu'il y a en Jordanie, en Turquie, au Liban. Et puis de façon générale, on a entendu Christophe Agier, qui est venu au Forum européen des alternatives, qui a écrit un livre tout à fait remarquable sur les camps. C'est en 20 ans, en 30 ans, la multiplication des murs et la multiplication des camps. Et il finit par dire, bon, habiter dans un camp, c'est devenu un mode d'habiter. Pensons aux camps palestiniens, qui sont devenus des endroits, où des semi-villes, ou je ne sais pas quoi, où les gens sont là depuis 30 ans, 40 ans. Et donc, le Haut Commissariat aux réfugiés dit qu'il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde, autant de murs, autant de camps. Donc, si vous voulez, parce que là, on va nous dire aussi, bon, d'accord, on va accueillir des réfugiés, mais c'est pour les mettre dans des camps de réfugiés. Est-ce qu'on est pour qu'il y ait des camps de réfugiés sur le sol européen, comme il y en a avec des tentes et tout ça. Bon. J'entendais l'autre jour Fotorino là qui était assez dans l'air et qui, on en reparlera sur la question de l'ouverture. Il disait attention, ne pas recréer des bidonvilles, des zones où il y aura de la violence, du racket, de l'humiliation, de l'enfermement. Oui, il faut accueillir, mais il faut accueillir, il faut répartir, il faut avoir une vision totalement différente de l'accueil que celles qui se pratiquent dans un certain nombre d'endroits. Donc, je vous disais, vers l'Europe, c'est relativement faible. Voilà ce que disait la CIMAD. La majorité des personnes qui se déplacent pour des raisons économiques ou à la recherche d'une protection le font à l'intérieur de leur propre pays. Les migrants internationaux représentent 200 millions de personnes, soit 3% de la population. Ça a augmenté récemment, c'était 2%, c'est devenu 3%. Parmi eux, seul un tiers s'est déplacé d'un pays en développement vers un pays développé, c'est les statistiques de l'OCDE. 60% des migrations s'effectuent en effet entre pays de même niveau de développement, entre pays développés ou entre pays en développement. De plus, ce ne sont pas les populations les plus pauvres qui migrent, car la migration a un coût. Souvent, seuls les plus aisés parviennent à réaliser leur projet migratoire. Donc, on a une vision, vous savez, c'est les focales, quoi. Alors, effectivement, c'est beaucoup. Tout ça, c'est énorme, tous ces gens qui meurent. Mais comparé, si on change de focale et qu'on se met à l'échelle internationale, l'accueil en Europe... Quand on voit... Moi, je suis tombée par terre quand j'ai vu qu'on mégote pour accueillir 5000 Syriens. Vu les chiffres ailleurs, quoi, ça paraît d'un égoïsme et d'une lâcheté épouvantable. Donc, je ne sais pas quelle a été votre réaction, mais c'est quand même... Je crois que pour les citoyens les plus... Enfin, les moins endoctrinés par le Front National et encore des valeurs humaines, c'est apparu comme quelque chose de minable. Hein, le fait de non, pas moi, pas mes quotas, pas 5 000, pas, bon, enfin, je ne sais pas vous, mais c'est. Donc il faut à la fois être sensible par les images médiatiques à l'ampleur de la détresse et réclamer un plan d'accueil humanitaire, et à la fois il ne faut pas se laisser prendre parce que c'est des chiffres qui sont pas, peu importants comparés au problème global des réfugiés et au problème des responsabilités aussi. Parce que ce que dit Patrick Veil, il n'a pas tort. L'Europe est en partie responsable de ces désastres. Mais enfin, pourquoi on ne met pas dans la boucle l'Arabie Saoudite, les Américains, etc. C'est-à-dire tous ceux qui ont créé le chaos au Proche-Orient, on ne leur demande rien en termes d'accueil. Ils sont quand même aussi responsables. On va pas, voilà. Simplement, peut-être les gens n'ont pas envie d'aller émigrer en Arabie Saoudite. Les États-Unis peut-être, mais l'Arabie Saoudite. Donc, voilà. Donc, si vous voulez... C'est encore, la situation en termes de catégorie administrative est encore assez compliquée parce que on n'a pas, le droit international nous interdit de... Parce que le droit d'asile, il est individuel. Il faut prouver qu'on est soi-même brimé. Hein. C'est comme ça qu'on a accueilli des gens du FIS qui étaient brimés par l'État algérien et qu'on n'accueillait pas nos collègues universitaires parce qu'ils ne pouvaient pas faire la preuve qu'ils étaient brimés par l'État. Bon, mais voilà, c'est ça, on peut rediscuter. Que vaut la Convention de Genève ? Elle est individuelle. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est collectif ? Alors, il y a un autre aspect du droit international qui dit qu'on ne peut pas renvoyer les gens dans les zones de guerre. Donc, on appelle les Syriens, par exemple, des réfugiés prima facie, avec un mot de latin à première vue, quoi, sur leur tête. Donc, si vous voulez, on ne peut pas les renvoyer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On peut créer de nouveau des gens à qui on ne donne pas le droit d'asile et puis qui vont... Et en plus, en France, ils n'ont pas le droit de travailler, donc... cette population flottante, ou bien on règle un petit peu le problème. Donc, là-dessus, si vous voulez, comment on peut réfléchir parce que pour le moment, on a une crise humanitaire et des réponses sécuritaires. C'est-à-dire, on absolument pas... Donc, il faut les distinguer. On a une crise humanitaire, il faut faire une réponse humanitaire. Il y a une crise de l'asile, il faut résoudre le problème politique de cette crise de l'asile. Mais essayer de répondre à une crise humanitaire par du sécuritaire, c'est aggraver l'humanitaire, quoi. C'est tout simple. Il n'y a qu'à voir Calais, puis ce qui se passe avec tous ces murs. Donc, alors, que veut dire... Alors, il faut penser plus loin, en amont et en aval des flux migratoires. Alors, penser plus loin, c'est d'abord la question de la paix. On ne peut pas... On ne peut pas réfléchir à ces problèmes de réfugiés sans ces questions de la paix. Aujourd'hui, c'est devenu une question cruciale. Parce que les Afghans, les Syriens, les Irakiens, et les gens qui sont en Libye fuient le chaos. Et moi, je pose la question, nous, qu'est-ce qu'on ferait à leur place ? Hein ? On serait là, on serait un Syrien dont la maison vient d'être détruite et qui bon, partirait. On essaierait de sauver sa peau, sa famille. Donc, si vous voulez, la question de la paix est absolument cruciale. Et donc là, on aura des choses à demander. La deuxième chose, si vous voulez, penser en amont aussi, bon, c'est penser le développement, hein, mais il faut savoir que... enfin bon, je reviens dans 5 minutes, mais si vous voulez, avant d'arriver à la question du développement, il y a eu un article d'Edgar Morin qui a essayé de montrer que l'humanisme s'est effondré, c'est-à-dire que l'Europe, qui bassine le monde entier sur ses valeurs, les droits de l'homme, etc., est incapable de les mettre en œuvre. Et par ailleurs, les guerres civiles et même les guerres ont à voir, elles n'est-ce pas de rien, elles ont à voir avec ce capitalisme financier, mondialisé, qui engendre la pauvreté, donc la concurrence entre les nations, la concurrence pour les biens communs, l'eau, par exemple, la future guerre de l'eau, et l'accaparement des richesses. Donc, et en plus, dans son court-termisme, il amène la planète à sa ruine, quoi, sur le plan écologique et sur le plan culturel. Parce que moi, je ne dirais pas comme Valls qu'il y a un choc de civilisation. Il y a un recul de civilisation au sens de la civilisation comme progrès. Et ce recul de civilisation, il a raison de dire que Daesh le représente. Mais ce recul de civilisation, il n'y a pas que Daesh qui le représente non plus. Faire une guerre et foutre des pays entiers en l'air pour du pétrole, c'est quand même aussi un échec énorme. Donc ce problème de concurrence entre nations, mais aussi au sein des couches populaires, c'est aussi le terreau, cette immigration. Voilà, enfin, on va retrouver les vieilles thématiques, ils viennent manger notre pain, ils viennent appel d'air, machin, etc. Et donc, et qui va nourrir toutes les régressions identitaires et tout ce que Alain écrit sur la montée de l'extrême droite, quoi. Donc, il faut être très attentif et faut, je crois que la question de la paix revient quand même au premier plan. Concernant les migrations qui sont dites économiques, il y a pas mal d'idées fausses selon lesquelles le développement tarirait les migrations. Ça, c'est faux. S'il y avait du développement, si les gens pouvaient vivre mieux chez eux, il y a une bonne partie des gens qui resteraient chez eux. Mais il y en a toujours qui voudraient migrer, et pourquoi pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée que le développement tarit la migration, nous, on a des gens qui ont, où les pays se sont scolarisés, où l'éducation des femmes a progressé, etc. Vous voyez des gens qui veulent aller faire des études, qui veulent aller faire leur métier, voir ailleurs, etc. On n'a pas forcément toujours envie de ne jamais bouger, quoi. Nomades et sédentaires, entre guillemets. Donc, moi, je pense que pour nous, il faut qu'on se lance, disons, dans l'idée du droit à choisir. C'est-à-dire, sortir de l'alternative, migrer définitivement ou ne pas bouger. Parce que pour le moment, justement, ces fameuses catégories administratives font que les gens ne peuvent pas bouger. Un réfugié, bon, il pourrait bouger si la situation s'arrange chez lui. Bref, mais en principe, il est là. Alors, le demandeur d'asile, lui, il ne peut pas bouger. Le sans-papier, il ne peut pas bouger. Donc, si vous voulez, c'est devenu tellement compliqué, je reviendrai là-dessus. Le sécuritaire, l'humiliation, la suspicion est devenue tellement forte sur les immigrés, même réguliers, que les gens hésitent à bouger, aller, venir, etc. C'est ce que nous faisons tous, nous. Ou ce que font les ressortissants de l'UE. Hein. Les amis portugais, ils vont, la mère revient voir ses enfants, on peut soigner la grand-mère, etc. Ça va, ça vient. L'aspiration profonde des gens, c'est à bouger, aller et venir, et non pas à dire, je viens chez toi, je m'incruste chez toi, j'adore chez toi, c'est pas vrai d'ailleurs, forcément il adore chez toi, comme nous on n'adorerait pas non plus aller ailleurs. Donc si vous voulez, il faut lutter contre tout ce qui entrave des systèmes de mobilité, voilà, de coopération et de mobilité notamment. Parce que maintenant, si vous regardez les chiffres, on a créé une frontière entre les Européens et les non-Européens. Je reviendrai là-dessus si vous voulez, mais avec la construction européenne, un Hollandais qui ne parle pas un mot de français, il peut venir, il peut rester, il peut faire ce qu'il veut, et puis un gars qui vient de nos anciennes colonies, qui est francophone, lui non. Voilà. Il y a une frontière. Et alors, bon, on va dire, voilà, les Européens, ils sont, les autres, ils sont blancs, ils sont chrétiens. Voilà. Il y a des. Et effectivement, c'est toi qui me l'as dit. Je crois qu'il y a un Allemand ou quelqu'un qui a dit que il voulait bien prendre des Syriens, mais seulement les chrétiens. Quelqu'un a peut-être noté ça. Vous l'avez entendu. Je prends, d'accord, mais seulement les chrétiens. Donc on va retrouver des choses sur lesquelles on travaille avec Fabienne. C'est l'islamophobie. Et la question de l'Europe, ses racines chrétiennes, etc., qui veut bien. Bon. Vous l'avez entendu ? D'accord. Donc, si vous voulez.
On va les trier.
Je peux m'arrêter là, si vous voulez, pour un temps. Je ne vais pas parler trop longtemps, répondre aux questions. Et si vous voulez, je peux revenir sur est-ce que cette nouvelle donne a à voir avec ce qui s'est passé depuis un certain temps ? Parce que moi, je suis. Fabienne Lapin, j'ai été pionnier, hein. Avec Alain, on était pionniers de la sociologie de l'immigration en France. On est devenus des vétérans. Mais du coup, on a suivi toute cette affaire.
Merci pour l'intérêt.
Hein? Ah oui, moi je l'assume. L'assume.
C'est pas son âge.
Moi, j'assume. Voilà. Donc, si vous voulez, on a suivi ça. Moi, ma première thèse, elle est portée sur les syndicats et travailleurs immigrés dans les années 70, 72. Je l'ai passé avec Alain Touraine. Après, j'ai passé l'immigration avec la classe ouvrière avec Michel Verret. Après, j'ai enseigné, j'ai monté un labo, j'ai monté un DEA, un master, etc. Bon, on a essayé de publier, on a dans des revues, on a monté ensemble un Gréco qui était de réunir tous les chercheurs sur l'immigration qui étaient tous dispersés à l'époque. Donc, on fait partie des gens qui ont rendu ce domaine académique. Mais ça ne veut pas dire encore assez... Enfin, si vous lisez mon bouquin, on était partis avant, on était invisibles. On parlait des immigrés comme des oiseaux de passage. Ouais. Et maintenant, on est dans la surexposition et l'instrumentalisation à outrance. Voilà, alors je peux m'arrêter là sur la situation actuelle. Sinon, je peux remonter à plus loin, mais je n'aime pas trop monopoliser trop le temps de parole.